Merci. Merci de se tenir par la main. C'est vrai que on a besoin de se tenir par la main, ensemble, tous ensemble. J'aimerais ce matin terminer l'étude que je vous avais apportée il y a 15 jours sur la prière d'après le texte de Matthieu 6. Rappelez-vous, nous avions abordé deux points importants que je résume brièvement. Le premier, c'était de nous détacher de tout ce qui, dans notre vie, nous éloigne de Dieu. Et nous empêche donc de prier. Et on avait regardé plus particulièrement notre image, notre besoin d'être vu, de nous montrer, de nous mettre en valeur. Le deuxième point mettait en relief notre comportement dans la prière. Et c'était toujours d'après le texte que nous avons vu, mais qui s'appliquait, j'ai envie de dire, pas drôlement, parce que c'est pas drôle, mais qui s'appliquait vraiment à nous, qui était l'hypocrisie, l'orgueil, la vanité. Quand il nous avait parlé de vaines paroles. En conclusion, après toutes ces mises en garde, j'avais relevé que le texte, bien au-delà de simplement nous critiquer et seulement nous condamner, au contraire nous enseignait et nous ouvrait des pistes pratiques pour notre vie de prière. Alors ce matin, j'aimerais donc rebondir sur un verset, un seul que nous connaissons tous, et qui plus peut-être que tous les autres, nous invite à l'action, c'est-à-dire à l'action de prier, à prier. C'est le verset de Matthieu 6, 6. Vous le connaissez, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On le connaît bien ce verset. Il s'adresse à nous, quand tu pries. Un verset qui nous invite à agir. Il ne nous dit pas « il faut que tu pries », il ne nous dit pas « si tu pries », mais il nous dit « quand tu pries ». Ça veut dire que déjà, il y a une option qui est prise de dire, il y a bien un moment où tu pries. Et là, peut-être déjà, on peut se mettre en question. Si le verset dit, quand tu pries, quand est-ce que je prie? Mais c'est bête, hein? Mais quand est-ce que je prie? Et puis ce verset, donc, nous invite à agir dans la prière, c'est-à-dire à prier directement. Et c'est un ordre qui s'adresse à nous. À nous, essayons alors de décortiquer ce que verset veut nous dire. Ce verset nous dit « toi », directement, « toi », « toi » quand tu pries. Ce n'est pas quand ton voisin prie, quand tes parents prient, quand tes enfants prient. C'est « toi » quand tu pries. Ce verset s'adresse à nous en tant qu'individus. Il y a un négro spirituel que j'aime beaucoup, que je sentais dans le passé avec le groupe « Common », et qui disait, c'est moi, c'est moi, c'est moi Seigneur, moi qui ai besoin de toi. Et puis le refrain disait, pas mon père, pas ma mère, pas mon frère, pas ma sœur, non c'est moi Seigneur, moi qui ai besoin de toi. Et il continue en disant, mais même pas le pasteur, mais c'est moi Seigneur, moi qui ai besoin de toi. Et c'est ça cette relation avec la prière, c'est quand Dieu dit, quand tu pries, il s'adresse à nous en tant qu'individus. C'est moi qui ai besoin de toi. Ce texte est donc bien là pour nous parler en tant que qu'homme, que femme, qui que nous soyons. Il n'est pas là pour l'autre. C'est donc justement pour que moi je prie, moi en tant qu'individu. Et justement, pour que je ne regarde pas forcément et pour que je détourne mes yeux de comment les autres prient. En fait, quand on a réfléchi à ce temps de réflexion sur la prière qu'on a eu avec Ian Newberry, John disait un jour fort à propos, il disait « mais en fait on ne sait pas comment les gens prient, on ne sait pas comment notre voisin prie, la vie peut-être on a des relations spéciales avec quelqu'un qui nous permet de savoir comment il prie et le temps qui passe, mais en fait on ne sait pas comment les autres prient. Et peut-être avant de dire on a besoin de prier, on devrait réfléchir à comment est-ce qu'on prie. Les uns et les autres, nous remettre en question par rapport à ça. Donc ici, Dieu nous parle personnellement pour nous dire que notre prière, c'est d'abord un échange un à un, cœur à cœur, comme disait André. Lui et nous, ou nous et lui, peu importe, il n'y a pas de politesse là. Lui et nous, nous et lui, c'est nous qui allons vers lui. Alors on se met peut-être en premier, peut-être c'est quand même lui qui nous entend. Mais vous réfléchirez, j'ai pas trouvé lequel il fallait mettre en premier. Ou s'il fallait mettre une minuscule à nous, une majuscule à lui dans mon texte. J'ai pas trouvé ça encore. Et nous pouvons, nous, ça veut dire toi, Moi, lui, elle, en pensant aux personnes qui sont autour de nous, nous pouvons lui parler parce qu'il nous connaît de façon tout à fait personnelle. Et il a souhaité cette relation depuis le début. Et cette invitation est renforcée par, dans notre texte, un certain nombre d'endroits où on a ces petits mots. Tu, ta, ton. On les connaît hein, quand on apprend la grammaire à l'école. On a du mal à les retenir. Mais ces petits mots, ils s'adressent toujours à nous et à nous personnellement. Ce n'est pas un on vague ou un nous vague. Non, c'est à nous quand tu pries ici. Et vous verrez dans le texte, dans ce texte que vous connaissez, on peut peut-être le remettre le texte, Pierrick, s'il te plaît. Regardez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton père qui est dans les lieux secrets et ton père qui va dans le secret te le rendra. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard, tous ces petits mots qui viennent et qui pointent? C'est pour ça que j'ai mis ce doigt. J'aime pas mettre ce doigt parce que vous savez ce que ça veut dire, hein, ce doigt quand on montre comme ça. C'est pas terrible des fois. Mais ce doigt, c'est Dieu qui nous le montre là. Alors on revient sur notre petit texte, quand tu pries. Toi, quand tu pries, ce n'est pas ici une notice de fonctionnement comme celle d'un appareil ménager. J'ai lu une fois un sondage d'opinion où on demandait... C'était un sondage sur le savoir-vivre des gens ou leur façon de vivre. Il y avait une question toute bête. Quand vous achetez un appareil ménager, est-ce que vous le branchez d'abord ou est-ce que vous regardez d'abord la notice? J'avoue que moi, je le branche d'abord. Mais c'est bête, parce qu'après on se dit, zut, parce que j'ai raté un truc. Puis bon, on n'a pas raté, parce que c'est souvent le beuh-a-ba. Hein. Mais voilà. Alors, c'est pas une notice qui nous est mis dans cette idée de prière-là. Mais ce ne sont pas des textes de vague généralité sur la prière où on dit brancher la prise dans la prise du mur. Oui, bien sûr, si on veut que ça marche, le faire passer, il vaut mieux. Hein. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est bien plus, c'est toi quand tu pries. Toi quand tu pries. C'est-à-dire c'est personnel. Au-delà de toi, on sent ici un sous-entendu fort, très fort, l'importance de la prière. Alors je vous l'ai dit, ce n'est pas si tu pries, mais c'est quand tu pries. Ce qui nous rappelle que la prière fait partie de notre vie, de notre quotidien, de notre respiration. C'est à la fois un conseil, mais beaucoup plus une invitation et au-delà de ça, un questionnement à nous remettre en question sur la prière. Est-ce que tu pries vraiment? Au-delà de ce quand tu pries, écoutons ce qu'on nous dit. Est-ce que tu pries vraiment? Mais vraiment? Est-ce que tu te rends compte que c'est important, que c'est aussi une invitation très forte de ma part? Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Éphésiens 6, 18 nous dit « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » 1 Thessaloniciens 5, 17 « Priez continuellement. » Priez continuellement. Ça va au-delà de prendre un temps de prière, ça, prier continuellement. Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Veillez et priez. Toi, quand tu pries, Dieu souhaite vraiment ici nous inviter à le prier pour rentrer ou rester ou re-rentrer en communion avec lui tous les instants de notre vie. On pourrait s'enfausser le sens du texte, résumer le début de cette phrase par un impératif. Toi, prie. Toi, prie. C'est directement, on enlève un mot, prie. Mais Dieu qui est amour, met ici toute sa sensibilité, j'ai envie de dire sa diplomatie, ce qui nous manque bien souvent, pour ne pas imposer, mais inviter, inciter, en mettant en nous cette responsabilité, ce besoin, ce désir, cette envie de prier. Le deuxième point qui est curieux, c'est toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est intéressant, il y a eu un petit sondage, je crois, où on en a parlé, où est-ce qu'on priait lors de la séance. Et il est évident que dans la chambre, il y avait beaucoup. Parce que c'est vrai que souvent on prie le soir, ou souvent on prie le matin, et c'est l'endroit où on est dans la chambre. Mais on n'ose pas dire, on est dans le lit aussi. En fait, c'est un peu souvent ça. Et c'est bien. Et il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien. La première chose que je fais le matin quand j'ouvre l'œil, c'est remercier Dieu pour la journée. C'est vrai que c'est chouette. Mais est-ce que c'est ça qu'on nous dit ici, entre dans ta chambre? On est déjà dans la chambre, là. Pas la peine d'y entrer. Hein. On y est déjà, là. Quand tu pries, entre dans ta chambre. En voilà une incitation curieuse de la bouche de Jésus. En plus, il n'y avait pas de chambre à cette époque comme on a chez nous. Les gens dormaient souvent par terre, dans la seule pièce, ou même sur la terrasse, souvent. C'est pour ça que les maisons avaient une terrasse plate, un toit plat. Donc c'est curieux cette invitation. Il semblerait nous indiquer que ce lieu est privilégié pour y prier. La chambre, nous on pense la chambre à coucher, mais la chambre veut dire pièce simplement. Entre dans la pièce. Je me souviens, dans la maison de mon pépé, il y avait une cave en terre battue qui servait à laisser s'écouler le petit lait des fromages blancs. Ça sentait le fromage blanc, c'était en terre battue. Et puis on appelait ça la chambre d'en bas, parce qu'elle était en bas. Donc en haut, à l'étage, il n'y avait que les chambres à coucher. Et ça, c'était la chambre d'en bas. Curieux nom. Mais c'était une pièce comme une autre. Entre dans ta chambre veut dire bien plus ici que la pièce. Nous appelle à remettre en question l'essence même de notre prière. Nous mettre à l'écart dans un lieu où nous ne sommes pas dérangés. Où nous ne pouvons avoir de pensée que celle d'entrer en contact avec notre Dieu. Nous retirer pour être seul avec Dieu, où que ce soit. C'est ce que le Christ va dire à cette femme au bord du puits, cette femme samaritaine au bord du puits, et cela va bien au-delà d'une désignation géographique. « Femme, lui dit-il, Jean 24, 21, femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Et là, on nous parle d'un lieu secret, d'une chambre. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Entre dans ta chambre, car dans le temps de prière, entre toi et ton Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose. Je voulais faire de la raquette hier. Pas plus de jeunes, tant pis, hein. Dans les bois. Moi, j'aime pas aller sur les pistes. Alors, je monte dans les bois au-dessus de Gex. Là, puis j'étais vers 1000 mètres à peu près. Il n'y avait pas de traces dans la neige. Il y avait à peu près entre 50 et 80 cm de poudreuse. Pas de traces. Donc, c'était. J'ai des courbatures. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, je me suis dit, et si là, c'était ma chambre? Et puis, je me suis planté au milieu. Puis, j'ai imaginé qu'il y avait un rond autour qui faisait un mur. Puis, j'ai prié. Puis, j'étais bien. Et puis. Vous voyez, au bout d'une minute, j'ai entendu « sssss » et une personne en ski qui est passée tout droit, là, il a 30 les arbres, pou, 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 qui venait de je ne sais pas d'où. Et je me suis rendu compte que ce n'était plus ma chambre. Voilà, ça avait coupé là, cette relation. Mais c'était intéressant, parce que c'était au milieu de personne et de nulle part, il n'y avait rien du tout. Et vraiment, je me sentais bien près de Dieu. Et puis, elle avait raison d'être là, c'était très bien. C'était sa liberté, mais ça a suffi, elle est entrée dans ma chambre aussi à ce moment-là. C'était intéressant. Il n'y a pas de place pour autre chose. Notre esprit entier va se lier avec l'Esprit de Dieu, partager avec lui, lui parler, l'entendre, l'écouter, donner et recevoir. Cette relation ne peut être ni troublée par le lieu, ni par autre chose. Jésus élève ici l'adoration, la prière, à toute sa hauteur de vérité et de spiritualité, et renvoie dans notre texte que nous avons lu, Samaritains et Juifs dos à dos. Il indique qu'il n'y a pas de lieu pour rechercher le Père, qui de partout entend nos prières, de partout. Imaginez-vous Jonas au fond de son poisson, il dit du fond de l'océan, j'ai prié et Dieu l'a entendu. Il n'y a pas de lieu. C'était sa chambre à Jonas. Pas terrible, hein? Il n'y a pas de lieu pour rechercher le Père, pas de lieu où ils n'entendent pas nos prières. Il les invite, il nous invite à nous rencontrer et à nous unir, nous partout, avec nos habitudes, nos différences, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui, à nous unir dans l'adoration du Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et peut-être que ce lieu secret, c'est le lieu où on va rencontrer l'Esprit de Dieu, simplement. La prière doit donc avoir lieu entre l'âme de l'homme et Dieu seul. C'est ici le lieu de la prière. Et on comprend bien maintenant pourquoi il nous a dit de fermer notre porte, pour que ce lieu justement reste secret. C'est-à-dire, vous êtes seuls tous les deux, nous sommes seuls tous les deux, rien ne peut entrer ni sortir. Vous êtes désormais, durant ce temps, en quelque sorte, imperméable à ce qui se passe autour. Je vais appeler ça la concentration, le vide qu'on peut faire et qui nous entoure, qui entoure celui qui prie, nous donne ainsi l'image de cette porte fermée, verrouillée, hermétique. Et souvenez-vous, ceux qui ont participé à la première réunion sur le livre de Néhémie, souvenez-vous cette porte sur laquelle n'avait pas été mis de verrou. Pas été mis de verrou. Vous souvenez ce que ça a apporté? La porte n'était pas fermée. Et ça a laissé entrer un tas de choses qui ont séparé le peuple de Dieu de nouveau. Le verrou n'avait pas été remis. Le temps de prière nous transporte dans un monde à part, unique et intemporel. Il s'agit bien ici d'entrer dans notre chambre et de fermer notre porte personnelle, de nous retrouver avec Dieu, seul à seul, et pour cela de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si vous avez visité Rocamadour. Qui c'est qui a vu Rocamadour déjà ? C'est absolument horrible. Bon, c'est beau géographiquement. C'est une ville qui démarre en haut du Causse et qui arrive en bas. Donc, il y a un très grand dénivelé. Mais alors, c'est absolument le plus haut lieu de l'idolâtrie et du commerce religieux que j'ai jamais vu. C'est vraiment... tout se paye, même l'ascenseur. Vous imaginez, pour monter dans l'église du dessus, à l'église du bas, à l'église du haut, il faut payer l'ascenseur. Il y a juste le chemin de croix qui est gratuit. C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai. Vous sortez alors, si vous n'avez pas de portefeuille, c'est même pas la peine de vous arrêter. Tout est payant. Par contre, il y a des lieux qui sont bien connus, et puis il y a des lieux moins connus dedans. Et j'ai trouvé, dans cette petite ville de Rocamadour, un endroit, une petite flèche marquée « lieu de prière ». Bon, curieux, je suis allé. J'ai descendu au moins 50 marches, c'était raide alors... Et ce n'était pas pour les handicapés. Alors là, le règlement 2012, 2014, je ne sais pas comment ils vont l'appliquer. Là, c'est râpé déjà. Il y avait plein de marches. Et puis en bas, il y avait une chapelle, une grande chapelle. Il devait y avoir au moins 200 places. Un silence. Je n'ai jamais vu un silence comme ça. Il n'y avait pas un seul bruit. Vous savez que c'est pesant le silence. Il n'y a pas du tout. Et pas un seul bruit extérieur. Et je me suis assis sur une chaise là. Il y avait des gens qui priaient devant aussi. Je me suis assis sur une chaise là et c'était vraiment l'image de la chambre fermée, où il n'y a pas de bruit et où Dieu, vraiment on peut s'approcher de lui, avoir un moment béni avec lui. C'était irréel, je n'osais même pas respirer. On n'ose pas faire le moindre bruit. Hein. Si jamais le banc craque un petit peu, on est mal comme tout, on a peur de déranger. Et c'était vraiment extraordinaire, et pourtant, dans une ville comme ça. Mais c'est le lieu de la relation avec Dieu, et ça passe au-delà de la religion, forcément. Rien d'autre que d'élever son âme à Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, Luc 6, 12, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. J'ai un ami gitan qui m'a confié un jour, avec la crainte que je me moque de lui, qu'il avait en pleine montagne un arbre à lui. Ce n'était pas son arbre, c'était un arbre à lui. Et quand il avait envie de prier, il montait dans la montagne et il allait devant cet arbre et là il priait Dieu. Et c'était son coin à lui. Alors je ne cherche pas où est cet arbre, mais c'était ça sa chambre à lui. Sa porte fermée. Voilà maintenant qu'il nous est dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. 9 fois, dans ces versets de Matthieu 6, dans les 18 premiers versets, il nous est rappelé d'adresser notre prière à notre Père. 9 fois en 18 versets. C'est la relation avec notre Père qui a été rompue à la chute, qui a été rétablie à la croix. La prière est le chemin que nous pouvons utiliser, que nous devons utiliser pour entrer en relation avec Dieu et retrouver ce lien brisé avec celui qui nous a créé, notre Père. Celui qu'il nous faut prier, notre Père. L'expression de ce Père qui est dans le lieu secret nous montre bien combien le lien de la prière qui nous unit est, est rigide, est fixe, personnel, intime. On a l'impression qu'il est presque jaloux. Et on a, oui, on a, je crois, intérêt à cultiver cette jalousie de ma relation avec mon Dieu dans ce temps de prière. C'est ma relation à moi avec mon Dieu. Ce qui s'échange ici entre nous et notre Dieu est, reste de l'ordre privé, de l'ordre du secret entre moi et mon Père. Même si je peux le partager après, mais dans ce temps précieux, c'est en privé avec mon Dieu et moi. C'est cela même, le lieu secret, ce lieu secret. Un lieu, un temps, un acte de partage et d'écoute. Unique, mais à la fois très limité, très délimité et très ouvert. Il est unique dans le sens où il se limite au temps et à l'espace de cette relation qui s'établit dans la prière. Qu'elle soit louange, adoration, intercession, requête, même cri intérieur ou cri même extérieur. Il est à la fois ce lieu délimité, fermé, car il est vraiment réservé aux deux intervenants, si on peut dire. Dieu et moi, moi et Dieu. Et que rien durant ce temps n'y pénètre, ne peut y pénétrer. Il est à la fois ouvert car c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige, qui le remplit, qui y fait son temple et qui en déborde. Esprit de vie qu'on ne peut pas endiguer, bien sûr. Faites cette expérience, refaites-la, recherchez ce temps, ce lieu, ce contact, cet échange privilégié. C'est à cela que Dieu nous invite, t'invite dans ce texte. Alors, vous comprendrez, vous sentirez que cela ne peut se produire qu'en esprit et en vérité, comme une sorte de flux simple qui fait le va-et-vient directement, sans intermédiaire, interrupteur, sans fusible, sans courant vagabond. C'est un courant qui passe directement entre Dieu et l'homme qui le prie dans ce lieu secret. Prier en esprit, en vérité, n'est pas un phénomène extraordinaire réservé à une élite, non. Ça n'est pas un miracle, non. C'est un privilège que Dieu donne par son esprit à chacun de ses enfants qui veulent réellement s'approcher de lui. Notre âme, à son plus profond, est alors dans ce temps de relation avec Dieu, totalement isolée, connectée, pour prendre un mot qu'on connaît bien maintenant, et j'ai envie de dire égoïste. La prière dans le lieu secret est et demeure un dialogue vrai, béni, où l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, à nous seulement. 9 fois dans le texte, on nous dit « ton Père, prie ton Père, ton Père ». C'est-à-dire l'importance de nous adresser à Dieu et à Dieu seul, sachant que notre Sauveur Jésus-Christ intercédera pour nous en portant notre prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte, nous sommes interpellés personnellement par ton Père. Et pourtant la prière qui nous est proposée, c'est notre Père. C'est curieux. Dieu nous invite ici à nous retrouver, à nous unir, tous ceux qui croient en lui, qui croient en son sacrifice, en sa mort, en sa résurrection, pour partager ensemble nos prières, en groupe, en cellule, à l'église, lors de réunions spéciales, avec des amis. Mais cela ne veut en aucun cas dire que les bases changent dans notre relation de Dieu durant notre prière. Soyez-en certains, il ne peut pas y avoir de véritable temps de prière en commun, béni, si de façon individuelle, les âmes de chacun ne sont pas tournées vers Dieu. Si individuellement, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit et de vérité. Et nous devons réfléchir ici, peut-être aux formes que revêtent nos temps de prière, ensemble, soit lors de nos cellules, soit lors de nos cultes ou de nos réunions de prière. Prière, louange, intercession, à voix haute, à voix basse, chanter, psaumes, hymnes, vieux cantiques, chants contemporains, avec ou sans instrument, sur des rythmes ou des styles musicaux de toutes sortes. Mais qu'importe, mais qu'importe. Nous avons, au fond de nous, chacun, des goûts musicaux différents, des habitudes qui sont toutes personnelles. En partant du point commun de ce lieu secret, il y a mille et une manières dans la forme de nous approcher de Dieu ensemble. Mais gardons l'idée que la prière n'est ni liée, ni nourrie par une ambiance seulement, qu'elle soit musicale ou autre, si agréable soit-elle, mais la prière vient de l'Esprit de Dieu et de son action en nous. Ma prière à mon Dieu, vécue et partagée ensemble avec mes frères et sœurs, n'aura de véritable profondeur et de réelle puissance que si le profond de mon cœur à moi, de ton cœur à toi, individu, est en relation personnelle avec mon Père, avec ton Père, en esprit et en vérité. Et c'est pour cela justement que le Christ commence sa prière par notre Père et non pas par mon Père, pour nous unir en nous permettant individuellement, mais côte à côte, avec nos frères et sœurs, de vivre ensemble, de jouir ensemble, de partager ensemble cette proximité que Dieu nous donne en tant qu'individu. La récompense qui nous est promise dans ce texte, trois fois, on nous dit « Dieu te le rendra, Dieu te le rendra », se comprend ainsi aisément, elle est en Dieu lui-même, elle est Dieu lui-même qui entre, est et vit au-dedans de nous. C'est la promesse que nous fait notre Père, individuellement et pour la famille de ses enfants, partout sur la surface de la terre. Et il nous le donne dans Matthieu 28, 20, et je terminerai avec ce verset. « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je vous invite à un tout petit temps de silence. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu t'intéresses à nous. Est-ce que tu nous interpelles par ce texte à venir personnellement, profondément auprès de toi, pour faire monter vers toi notre reconnaissance, pour te louer, pour intercéder, mais surtout pour entrer en relation avec toi, d'une façon profonde, d'une façon vivante, dans une relation de confiance, de père à enfant, une relation d'amour. Nous te remercions pour cet amour que tu as donné sur la croix, pour cette vie éternelle qui en découle, et pour ce lien que tu veux renouer par cela, par le sacrifice de ton Fils, entre nous, tes créatures, et toi, notre Créateur. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Aide-nous à trouver ce lieu secret et à y goûter ta grâce, Seigneur. Amen. Dans les choses à partager ensemble, que Dieu nous propose de partager ensemble, il y a ce repas qui est du même, qui ressort de la même économie, j'ai envie de dire. C'est une relation personnelle aussi. Et là, il y a aussi le tu qui nous invite à y participer en tant qu'individu. Et puis, il y a le nous qui nous invite à y participer en tant que groupe, qu'église, église au sens des enfants de Dieu qui sont réunis. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons partager ce repas. Dieu nous dit, par l'intermédiaire du Christ qui explique ceci à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'au jour de mon retour. » C'est-à-dire, je reviens bientôt, mais en attendant, je vous invite à partager avec moi ce repas en mémoire de mon sacrifice sur la croix, de ce corps brisé, de ce sang qui a coulé, mais qui est pour le rachat de ton péché et qui ensemble est pour le rachat de vos péchés. Donc c'est le lieu où ensemble, en commun, nous pouvons nous approcher de Dieu. J'ai demandé à personne pour l'instant, est-ce que deux personnes voudraient venir partager, distribuer ce repas pour chacun.
Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu nous as tellement aimé, Seigneur, que tu as été jusqu'à la croix, ton corps a été brisé pour moi, pour nous. Seigneur, on ne peut que te remercier pour ce que tu as fait là. Et Seigneur, on se réjouit de bientôt te voir face à face. Amen.
Après le repas, le Christ prit la coupe et la bénit, nous est-il dit. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est livrée pour chacun de vous, pour la rémission du péché de beaucoup. Prenez et buvez. Nous voulons te remercier pour ce sang qui purifie. C'est Raymond qui va prier.
Oui, Seigneur Jésus, alors que nous abordons ce matin encore ce thème de la prière, trois mots me reviennent qui ont bouleversé ma vie ces derniers temps. Dieu est là. Et Seigneur Jésus, si nous pouvons nous rendre où Dieu est, si nous pouvons à nouveau être en relation avec notre Père, c'est parce que tu es monté sur cette croix et c'est parce que ton sang a coulé pour nous, parce que tu es ressuscité trois jours après et parce que lorsque nous prenons ce repas, nous nous souvenons que ce que tu as fait, c'est nous emmener avec toi dans ce lieu saint, dans ce lieu très saint où est notre Père, afin que nous puissions le rejoindre pour l'écouter, pour le connaître, pour lui parler, pour lui dire tout ce que tout ce qu'il met en nous, tout ce qu'il évoque en nous. Et Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que cet acte que tu as accompli, incomparable, nous lie à nouveau à notre Père. Et nous pouvons aujourd'hui dire, Dieu est là, et aller vers lui. Amen.
Seigneur, merci pour la prière que nous pouvons partager. Merci pour ce Notre Père que tu nous as laissé. Merci pour ce repas que nous avons partagé. Nous voulons, Seigneur, proclamer que tu es notre Sauveur et que tu reviens bientôt. Et nous voulons t'attendre dans la joie et dans l'espérance. Amen. Je voudrais partager avec vous les annonces concernant les activités de cette semaine qui vont s'afficher ici. Semaine chargée. Lundi 14h, le Fam Club chez Rebecca. Le soir 20h30, la cellule de prière chez Brian Hélène. Mardi, le conseil d'anciens. Mercredi, la chorale ici. Jeudi, donc, il y a un changement de programme avec l'ensevelissement de Roby. Se fera en deux temps. D'abord au cimetière à Collonges à 11h30. Vous y êtes les bienvenus si vous avez envie de venir partager ce dernier moment, cette séparation avec Roby. J'en ai parlé avec Hélène hier. Elle est tout à fait ouverte à ce que chacun vienne partager et puis les entourer aussi là. Et puis une cérémonie qui aura lieu ici à 15h le jeudi après-midi. Les cellules étaient fixées, donc les cellules de Collonges chez Pierre pour le jeudi soir et chez Anne-Lise pour la cellule de Gex le jeudi soir. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche, 9h30, café-thé. Je vous invite vivement à venir y participer. C'est un super moment. Si vous n'êtes pas venu, donnez-vous un challenge de vous lever trois quarts d'heure plus tôt et de venir à la cellule. Comme ça, vous verrez ceux qui se lèvent tôt aussi, c'est bien. Mais venez participer à ce moment, c'est super, un super moment. Et puis notre culte à 10h30. Je vous rappelle l'Assemblée Générale qui aura lieu le mardi qui suit à 20h. Vous avez tous reçu votre convocation en tant que membre, soit par la poste, soit par Internet. Si jamais vous n'auriez pas reçu, venez nous le dire rapidement, c'est qu'il y a eu un petit pépin, un petit problème, soit à la poste, soit d'email. Hein. Et puis pensez à, si vous ne pouvez pas venir, pensez à faire passer un pouvoir dans les couples, faire passer un pouvoir à votre conjoint, si vous devez rester garder des enfants par exemple, ou bien si vous ne pouvez pas du tout venir, merci de faire passer un pouvoir à quelqu'un que vous connaissez, ou à, vous pouvez faire passer aussi au bureau de l'église, il n'y a pas de souci. Je voudrais vous annoncer deux temps aussi un petit peu un petit peu plus spéciaux qu'on aura. D'abord, une information qu'on va mettre en route, un parcours baptême. C'est-à-dire une série de réunions, de préparations, de réflexions sur le baptême. Ça n'engage à rien du tout, mais si vous êtes en réflexion, si vous vous remettez en question, si ça vous intéresse, on va faire une série donc sur le baptême spécialement, et on veut continuer à travailler là ensemble. Donc venez nous dire, venez me dire ou dire à John ou à Pierre, et en fonction de qui il vient, on verra quand on le met. Pour que ça arrange tout le monde. On n'a pas fixé une date et après que des gens ne puissent pas y venir. Mais ça sera selon la demande. On a déjà une personne qui est intéressée, qui nous a demandé, on voudrait aussi compléter avec d'autres personnes pour le faire pour plusieurs, c'est plus sympa. Vous pouvez aussi y venir d'ailleurs si vous êtes déjà baptisé. C'est intéressant aussi de venir partager. Voilà, ça c'est une chose. Et puis le dimanche 24 mars, on aura ici une journée spéciale. Dimanche 24 mars, on aura un temps de célébration pour les 30 ans du bâtiment, qui date de l'année passée déjà, mais qu'on n'a pas fait en fin d'année. Donc on aura un culte spécial de remerciement, un culte de reconnaissance pour ce bâtiment dans lequel on est, qui risque de changer bientôt peut-être. Et on veut en tout cas se réjouir de ce qui nous a été laissé, de se souvenir aussi. Donc le matin, on aura un temps de célébration, un culte un peu spécial, un repas le midi, on verra comment il se fait encore, on n'a pas encore décidé. Puis l'après-midi, une intervention sur le souvenir, la mémoire de ce bâtiment, un petit peu. Donc si vous avez aussi des idées, vous êtes les bienvenus, et si vous souhaitez participer en quoi que ce soit, vous êtes aussi les bienvenus, venez voir les anciens pour ça. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Raymond ?
Oui, je disais pour une petite réponse pour André, mais aussi pour tout le monde, et à moi en premier, par rapport aux questions que tu te poses, et on a reparlé ce matin du séminaire prière et de la prière, et quand Yann Newberry était là, il y a quelques semaines, il avait emmené une multitude de livres ici, et moi j'aime bien lire, donc j'en ai pris la plupart, mais il y en a un que j'ai déjà dévoré, et qui s'appelle « Bâtir ma vie », qui a été écrit par Peter Maiden, qui est le responsable d'opération mobilisation. Et ce livre, il parle du disciple, des disciples, de nous tous ici, en tout cas, de tous ceux qui pensent l'être. Et il nous interroge sur notre vie de disciples, dans plein d'aspects de notre vie, notre argent, nos biens, notre sexualité, même plein d'aspects de notre vie qui passent en revue d'une façon très humble. Et si vous êtes un tout petit peu bousculé au tout début du livre, surtout allez jusqu'au bout, parce que c'est abordé d'une façon très humble par quelqu'un qui est engagé auprès de Dieu et qui remet vraiment en question notre vie de disciple. Et moi, ça m'a fait un bien énorme. Et par rapport au vent, en tout cas, ça a déjà commencé à faire souffler une petite brise et j'espère qu'elle s'agrandira. Donc je te le conseille, André, et tous ceux qui ont envie de passer du temps à lire, vraiment dans notre envie de faire avancer notre communauté sur la vie de disciple, je vous invite à lire ce livre, « Bâtir ma vie ».
Merci. Je voudrais, avant de terminer ce culte, vous faire part de quelque chose d'un peu plus particulier. Vous savez ce qui se passe en France actuellement, ce vote qui est passé à l'Assemblée nationale déjà et qui est parti vers le Sénat. Il y a deux assemblées en France donc. Hein. Et bien, on croit qu'il y a deux assemblées, mais il y a trois assemblées en fait. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une assemblée, une troisième assemblée, qui a été, dont la possibilité, la réforme constitutionnelle de 2008 a ouvert la possibilité aux citoyens français de saisir par voie de pétition le CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième chambre de la République, une chambre de recours des citoyens. Sur ce qui se passe sur ce vote du mariage pour tous, les citoyens, on s'en fiche, hein, complètement. Et on a les moyens de faire quelque chose. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Si 500 000 signatures arrivent sur le CESE est obligé d'intervenir avant qu'une loi soit votée. Obligé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la loi. C'est le même principe que le référendum en Suisse, si vous voulez, pour vous donner une idée. Et donc, voilà, on arrive à ce point-là. Le 7 février, il y avait 400 000 signatures. 400 000. Alors, si vous ne savez pas, ce n'est pas une prise de position politique qu'on fait ici, c'est parce que j'imagine que comme moi, comme vous, ça nous a interpellés à dire, mais ça nous convient pas dans notre foi. C'est pas, euh, c'est, Ce n'est pas juste par rapport à ce que dit l'Écriture. Bon, vous pensez ce que vous voulez, hein. Mais dans ma foi, moi, ce n'est pas juste par rapport à l'Écriture, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Donc, on a la possibilité là de signer simplement une pétition qui est là, où on met simplement son nom, son adresse. Alors, ça nous engage, c'est clair. Son nom, son adresse, la date, la signature, et on envoie ça par la poste demain, parce que le recensement sera fait à la date postale du 12 février, et on envoie ça à l'association qui est marquée en bas et qui rejoint et qui met les pétitions ensemble. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, mais peut-être c'est intéressant de dire je peux faire quelque chose pour dire je suis pas. Je demande qu'on regarde aussi, qu'on tienne compte de ma voix. Je pose des pétitions au fond. Si vous les voulez par Internet, vous me demandez, je vous ferai passer le lien, simplement pour le faire. C'est une interpellation, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais c'est pour aussi nous interpeller. On a hésité avec le conseil d'entrer dans ce débat par rapport à l'Église et de mettre des textes. On a une foule de textes qu'on a reçus de différentes prises de position, des différents mouvements, différentes églises. On a réfléchi sur le fait de le mettre ou pas. On n'a rien mis. Voilà, maintenant il y a une autre possibilité ici qui est une possibilité citoyenne de chacun, en son âme et conscience, de faire quelque chose pour dire, ben voilà, j'ai au moins fait ça.
Est-ce que tu regroupes les formulaires pour les envoyer demain?
Alors, si vous voulez les signer là, moi, j'ai pas de souci pour faire une enveloppe ce soir. Hein.
Mais on ne peut pas le faire par Internet?
Non, alors non, justement. Ce n'est pas une pétition par Internet. C'est une pétition, c'est une... Non. Alors, ce conseil est saisi par des documents papier uniquement envoyés par le groupe qui génère cette pétition, hein, une pétition groupée. On ne peut pas, c'est bien précisé. Ce n'est pas moi qui le gère. Hein, c'est pas,
Je pense que les gens ils confondent parce qu'il y a beaucoup de pétitions par Internet qu'on circule aussi ces derniers temps.
Voilà. Alors,
ça, c'est la voie légale.
Ça, c'est la voie légale de la République française. C'est la voie légale. On peut saisir cette CESE par lettre uniquement. Par lettre uniquement. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus être noyés de mails qui viennent de tous les sens avec des choses qui vont aussi dans tous les sens. Ils ne s'intéressent pas qu'à ça, hein, le CESE. Hein. Ils s'intéressent à contrôler les lois économiques, etc. Tout. Alors, si vous voulez le faire maintenant, moi, je prends à la fin du culte les signatures, si vous voulez le faire chez vous. J'en ai imprimé une dizaine, mais on peut vite en faire des photocopies s'il y a besoin. Moi, je pose ça au fond, je ramasse après ce qui reste. Pensez bien, nom, prénom, nationalité française. Il faut avoir la nationalité française. Domicile, la date, etc. Voilà. Je vous invite à vous lever pour terminer ce culte. Et puis je vous relirai la fin de ce psaume 121 qu'on a lu ce matin en début de culte. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera, il gardera ton âme, il te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est sa bénédiction pour nous, pour tous les jours de notre vie. Amen.